Le patrimoine de Bess en bulle sonore. Une série de sons pétillants pour découvrir Bess, ses mystères, ses légendes et ses habitants. En 1942, l'ingérence allemande dans la politique de la France amène des habitants à s'opposer et à s'organiser pour lutter. Les réfractaires au service du travail obligatoire, les socialistes, les communistes, les nationalistes, toutes les oppositions se regroupent et mettent la pression à l'occupant. Les attentats mènent les Allemands, accompagnés des miliciens et de la police française, à intervenir. Pierre Delquer a 7 ans en 1944 et la journée du 3 avril ne s'effacera jamais de sa mémoire. À travers ses yeux d'enfant, il nous raconte. Le 3 avril 1944, il fait beau, le ciel est d'azur, c'est le jour du marché. Le cœur du village commence à s'animer dès le matin très tôt. Mais les convois allemands s'approchent.
Bonjour, je m'appelle Pierre Delquer. Je suis né le 27 janvier 1937. Donc ce 3 avril que j'ai vécu en tant qu'enfant m'a énormément marqué. Je faisais déjà partie d'une famille qui était très impliquée. Mon père était marchand de vin, était lieutenant des pompiers à l'époque. Et il avait été retenu par Zozo Juillard de former une équipe, surtout pour participer plus tard au parachutage et au camouflage d'armement. Donc il avait choisi parmi son équipe quelques bons éléments qui étaient très discrets. Et puis j'étais au sein d'une famille du côté de ma mère qui avait déjà trois frères qui étaient dans la résistance et plus un qui avait, malheureusement avait été prisonnier pendant la dernière guerre 39-40, donc qui est resté 5 ans en captivité. Donc ses frères qui étaient issus de la famille Fargé. Deux étaient de Billon. L'aîné était charcutier. Il sera arrêté le 11 juin, je crois, 1944, ayant un dépôt dans son sous-sol et une visite de la Gestapo qui était venue pour l'arrêter. Il a réussi à se sauver grâce à son épouse qui lui a permis de fuir par les escaliers malgré qu'il reçoive une rafale de mitraillette. Bref, Jean Fargé, qui était mon parrain, par contre, a été arrêté lors de la rafle du 16 décembre à Billon. Malheureusement, il mourra entre Elrich et Bergen-Belsen. Et puis le troisième, René, qui était le plus jeune, qui faisait partie du maquis de Mabru, de Bourlastique, qu'on appelait le Tonton, alias le Tonton, était venu passer 2 ou 3 jours à la maison. Alors ce 3 avril, au matin, très tôt, à 6 heures du matin, Madame Legros prévient mon père, puisqu'elle le connaissait très très bien, et même se tutoyait. Et Madame Legros, en appelant mon père, dit « Louis, partez vite, les Allemands montent sur Bess ». Elle avait été prévenue elle-même par des collègues de Champé, puis de la bataille, que la colonne était en direction de Bess. Bon, mon père, bien sûr, n'a pas cherché à fuir, mais tout de suite, il prévient mon oncle René, qui n'était pas encore levé, et il lui dit « Tu t'en vas vite, 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 et monte au Verdier. Ensuite, tu iras prévenir le maquis de au bureau du Verdier et Courbanges. Et par contre, il dit, tu montes au pic des Rissous, et il dit, à partir de là, tu verras si la colonne continue sur Picherande. Bon, tu attends que la colonne ait passé, puis tu redescendras. Mais si la colonne s'arrête à Bess, alors là, tu pars vite et va prévenir tous les camarades qui se trouvent là-haut. Donc, mon oncle René Fargé part aussitôt, donc peut-être vers les 6h15, invité. Il descend, bien sûr, à la station biologique, et il monte au pic des Rissous. Mais arrivé à proximité du pic des Rissous, c'était un lundi, un jour de marché, qui faisait très très beau, il y avait un beau soleil. Juste avant qu'il arrive à une sortie de jeûner et tout ça, des abris, il a vu que les casques déjà brillaient au sommet du pic des Rissous. Et ça l'a tout de suite frappé. Et ce qu'il a vu, c'est que les Allemands étaient déjà présents et étaient en train de mettre une mitrailleuse en batterie. Et le pic des Rissous, c'est un point stratégique donc qui avait été retenu quelques jours à l'avance un dimanche avant, où trois officiers étaient venus d'Ambès superviser le bourg, retenir les points stratégiques, c'est-à-dire le pic de Bertelage, qui était au sud, Barbalade, qui était à l'ouest, et le pic de Derissou, qui était au nord. Et donc, ces endroits avaient été repérés, la position des barrages aussi. Donc, tout était bien prévu déjà depuis la semaine d'avant. Alors donc, mon oncle, bien entendu, s'est vite replié dans les buissons et a gagné le Verdier. Il est arrivé là-haut, bien sûr. Il était en mauvais état parce que bon, il avait plus de genoux après les pantalons, tout était déchiré. Bref, il a été prévenir tous les camarades qui étaient en position au bureau du Verdier et les bois de Courbanges. Et puis, 7 heures du matin, donc la journée commençait très très bien, enfin très très bien d'une certaine façon. Voilà que quelqu'un, un monsieur qui frappe à la porte, avec un chapeau, un manteau de cuir. Et puis, tout de suite, bon, ma mère va ouvrir. Quand elle voit ce monsieur, elle pense tout de suite à la Gestapo, parce qu'il était habillé presque de la même façon. Elle ouvre la porte. Bonjour, madame, je viens de la part de Monique. Je viens de la part de Monique, il faut me cacher, les Allemands m'en recherchent. Alors, on m'avait dit, mais monsieur, moi, je ne connais pas de Monique. Alors, il se reprend, il dit, non, mais c'est Montpied de Clermont, qui connaît bien Louis Delcaire. Il dit, mais moi aussi, je le connais. Donc, elle dit, bon, mais... alors, à ce moment, elle appelle mon père. Et mon père sort, bien sûr, je ne sais pas de quelle pièce il était, bref. Quand il a vu Giraud, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, les Allemands sont peut-être arrivés, sont peut-être d'Anvers. Et qu'est-ce que tu fais? Il dit, oui, mais il faut me camoufler. Il dit, je suis très recherché. Alors, mon père, il expédie ma mère. Il lui dit, tu le montes à la cave et tu le fais cacher derrière le foudre que nous avons là dans le chai. Et je le rejoindrai plus tard dans la journée. Et ma mère, bon, emmène Giraud, alias César, je tiens à le préciser, et va le cacher donc dans le chai qui se trouvait sous l'hôtel du Beffroi. Et puis là, la journée continuait, d'un seul coup vers les 7h30, 8h moins de quart, voilà, trois camions qui arrivent sur la place, avec les Allemands qui sortent des camions, qui se jetaient partout, bien sûr des Allemands en armes, qui se dispatchaient un petit peu dans toutes les rues, puis qui s'arrêtaient à l'angle de certains quartiers, et puis déposent même des caisses de munitions sur notre trottoir et sur celui du casino qui était juste à côté. Donc, quand tous ces Allemands se sont répartis un petit peu sur toute la place et un peu dans les rues, les camions repartent, et puis voilà deux tractions qui arrivent par la rue Mercière. Alors, deux tractions qui s'amènent et puis qui s'arrêtent devant le bar qu'on appelait à l'époque chez l'Adrienne, qui est devenu maintenant le bar de la Gemme. De cette traction, il sort deux, trois officiers en tenue, en allemand, et puis des civils, et ils prennent la rue qui va place de la Pairie. Et là, arrivé place de la Pairie, mon père, bien sûr, qui était aux aguets, a compris tout de suite qu'il venait pour arrêter Vallon, qui était un chef du maquis, qui a été le premier chef des maquis, qui a été remplacé plus tard par Jean-Pierre. Ils vont essayer d'arrêter Vallon, mais sur cette place de la Pairie, il y a quatre portes d'entrée dans différentes maisons. Et ils se sont trompés de porte la première fois, et ils sont rentrés dans la porte dans la maison du notaire, qui était maître des chambres. Ils arrêtent maître des chambres. Et il embarque dans une traction, puis les deux tractions repartent et en direction de la gendarmerie. Et quand ils ont eu vérifié, bien sûr, l'identité de maître des chambres, bon, ils ont vu qu'ils avaient commis une erreur. Bon, je ne sais s'ils l'ont relâché dans l'immédiat, mais c'est qu'ils l'ont relâché un peu plus tard. Les deux tractions reviennent à nouveau. Et là, donc, ils prennent bien le temps de longer la place de la Pairie. Et là, cette fois, ils ne sont pas trompés de porte. Ils rentrent bien chez Vallon. Mais manque de chance, ils ne tombent pas sur M. Vallon, qui avait déjà pris la fuite, déjà même depuis pas mal de temps. Et c'était Mme Vallon, son épouse, qui, par contre, a été arrêtée. Elle, pourtant, elle n'habitait pas dans cette maison. Elle habitait dans la rue de la Tour Chabry, dans une petite maison voisine, chez une cousine qui s'appelait même la Micheloune. Et donc, elle était venue rechercher des papiers compromettants qui s'était oublié. Et malheureusement, la Gestapo est arrivée et l'a arrêtée. Et elle sera conduite, bien sûr, à la gendarmerie, où tous les gens qui seront arrêtés au cours de la journée seront conduits à la gendarmerie. Cette traction, sont reparties et elles reviennent au bout d'un moment. Et là, pendant ce temps, les Allemands n'étaient pas partis au quartier des rues. À chaque angle des rues, il y avait deux, trois Allemands. Il y avait deux ou trois vers l'économa, vers le coiffeur, vers la boutique là, de Madame Juillard à l'époque. Et donc, qui sort du bureau des indirects ? Monsieur Balança. Monsieur Balança et Monsieur Guéton. Monsieur Balança a été un des tout premiers, je dirais même peut-être le premier résistant de Besse et qui a multiplié chose et autre pour engager des jeunes et d'autres personnes, qui a pris des risques énormes. Et ce jour, il avait reçu Monsieur Guéton, qui était venu d'Église Neuve et qui était le responsable de la résistance d'Église Neuve et qui était en même temps buraliste. Donc, est-ce qu'il était venu pour porter une certaine somme d'argent, peut-être de tabac ou je ne sais quoi, ou peut-être pour reprendre d'autres renseignements auprès de M. Balança. Bref, ces deux personnes sont appréhendées et arrêtées même rudement par les Allemands et deux officiers qui étaient avec eux. Et donc, par contre, ce qui m'a marqué énormément, c'était M. Guéton. Enfin, moi, je ne le connaissais pas, mais mon père l'a reconnu tout de suite. C'est M. Guéton qui avait fait la guerre de 14-18, qui, malheureusement, pendant cette guerre, avait eu le bras coupé. Et donc, les Allemands obligeaient M. Balança et M. Guéton à mettre les mains derrière la tête. Et M. Guéton avait de grosses difficultés, étant donné qu'il avait le bras coupé, à relever, bien sûr, le bras gauche, mais le bras droit, il avait de grosses difficultés à lever son bras. Et je revois encore les Allemands le piquer derrière avec le bout de leur fusil pour qu'ils laissaient quand même, malgré tout et contre tout, à lever les bras, à mettre les bras derrière sa tête. Et ils sont embarqués, bien entendu, à la gendarmerie. La journée continuait, puis est arrivé 8h30, donc il était l'heure d'aller à l'école. Et ma mère nous conduit avec ma sœur Madeleine, qui est un peu plus âgée que moi, à l'école. Alors que d'habitude, moi, l'école de garçons n'était pas très loin, à peut-être 150 mètres. Moi, j'allais seul d'habitude à l'école. Et là, ce matin, ma mère, vu les circonstances, nous emmène à l'école et en nous tenant par la main. Arrivé au carrefour de la route de Compiègne, un barrage tenu par les Allemands, avec de chaque côté des poteaux télégraphiques reposés sur des croisillons. Et puis au milieu, entre les poteaux télégraphiques, il y avait une chicane avec des rouleaux de barbelés qui étaient en forme de S. Pour passer, il fallait passer entre et faire un zigzag pour ne pas s'accrocher après ces barbelés. Et ce barrage était gardé par deux, trois Allemands à l'entrée, comme deux ou trois à la sortie. Donc déjà, première grosse surprise, et puis un peu d'appréhension de passer à côté de ces militaires, donc en armes. Et puis nous voilà qu'on rentre d'abord à l'école de filles, avant d'aller à l'école de garçons. Et moi, je pensais aller à l'école de garçons d'aller tout seul. Et puis là, non, ma mère ne me lâchait pas la main. En rentrant, la première porte, en rentrant à l'école, il y a une porte de cave là, sur la droite. Et il y a deux Allemands qui étaient en train de fracturer la porte de la cave à coups de hache. Et Hardy dit que je te tape et je te frappe. Et bon, et ils étaient en train de casser la porte. Moi, ça m'a marqué déjà énormément de voir ces Allemands qui fracassaient la porte de la cave. Alors pourquoi et pour quelle raison on a su plus tard, ils cherchaient un dépôt d'armes qui était bel et bien dans l'établissement scolaire. Mais le dépôt d'armes n'était pas dans la cave. Le dépôt d'armes se découvrira le soir même de la rafle, plus tard, et il était sous l'estrade de Madame Soulier. Madame Soulier qui était la directrice de l'école primaire. Donc, parce que là, à cet endroit, dans cette école, il y avait l'école primaire et il y avait le cours complémentaire. Donc, on monte l'escalier pour aller de proximité de la cour. Et puis là, Madame Asselot, qui était par contre la directrice du cours complémentaire, qui dit à ma maman, pas Madame Delcaire, vous auriez mieux fait de garder votre fille aujourd'hui à la maison. C'était pas le jour de venir à l'école. Alors, bon, ma mère n'avait pas trop compris, bien sûr. Vous voyez quel risque il pouvait y avoir. Bref. Mais voilà que, au moment où on arrive à l'entrée de la cour, il y a un ou deux Allemands, je me souviens bien faire, un, c'est sûr, qui vient prendre ma sœur et puis qui la conduit au mur. Et oui, déjà, moi, j'avais regardé en dehors de la porte et j'ai vu que tous les enfants qui étaient là dans l'école de filles, étaient alignés le long du mur et tous avec les mains derrière la tête et avec les soldats allemands qui étaient en armes et qui les tenaient en joue. Et il y avait dû y avoir peut-être 6 ou 7 soldats. Et alors, moi, quand j'ai vu ça, je lâche la main de ma mère d'un coup et je me sauve, je prends les escaliers en descendant. Les Allemands étaient toujours encore après la porte, ils n'avaient pas encore réussi à finir de l'ouvrir. Et au lieu, bien sûr, d'aller à l'école de garçons, moi, je file directement à la maison, mais en passant dans le barrage qui était, non pas entouré, mais qui était, comment dire, obstrué par ces rouleaux de barbelés, moi, je n'ai pas prêté attention, j'ai filé là-dedans, et bien sûr, j'y ai laissé le tablier s'est accroché, mais je ne me suis pas arrêté hein, pour me décrocher, rien, bon, le tablier était tout déchiré, peu importe. Et puis, je suis rentré chez moi, je me suis mis sous la table, ça, je m'en souviens, et j'avais très peur. Alors, mon père dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ils ont emmené ma sœur au mur, avec les autres et tout. Mon père a dit, mais bouge pas, c'est rien, laisse passer la journée, attends, et, bon, reste là, et reste calmement, tout. Mon père a essayé de me consoler un peu, bref. Et puis la journée s'avançait, on voyait toujours le va-et-vient d'en bas, ces Allemands qui circulaient de partout, tantôt avec d'autres personnes qu'ils avaient arrêtées, parce que non seulement ils recherchaient des résistants, mais ce jour-là, tous ceux qui avaient eu le malheur de se promener dans Baisse, non pas de se promener, mais d'aller faire peut-être quelques commissions, car il faut bien dire, c'était le marché, donc il y avait quand même quelques paysans qui étaient venus, qui avaient réussi à rentrer dans le bourg, mais ils étaient arrêtés et conduits là-bas tous à la gendarmerie, et il y a eu quand même une cinquantaine de personnes ce jour-là, 50 et quelques otages qui ont été arrêtés, bien sûr après il y a eu un tri, et ils en ont gardé un certain nombre. Bon. Alors donc, après la journée donc, qui était en train de s'écouler, puis vers les 10 heures du matin, voilà une dame qui vient à la maison, Madame Bernard, qui habitait à Vaucoux, mais qui était native de Combes, et qui était venue au marché donc le matin avec son mari. D'ailleurs, ce que j'ai su un peu plus tard, c'est que son mari, quand il est arrivé à proximité de Besse et qu'il a vu qu'il y avait des Allemands qui circulaient, et il est reparti, il a fait demi-tour, et il est reparti en direction de Maubert, presque en courant, mais ils l'ont tiré dessus, et bien sûr à côté, mais il s'est arrêté, et les Allemands l'ont appréhendé, mais quand ils ont vu que c'était un paysan qui venait à son marché, donc ils l'ont laissé rentrer dans Besse, mais ce monsieur Bernard, après, n'avait pas été appréhendé, c'est-à-dire n'avait pas été conduit à la gendarmerie. Par contre, son épouse avait été en mairie. Elle avait été en mairie, donc pour remplir certaines formalités, je ne sais quoi. Et là, le docteur Pipet, c'était Élie Pipet, qui était maire et conseiller général à l'époque, avait eu les ordres de l'officier allemand, qui était autre qu'un SS et un agent de la Gestapo, qui était Gessler, d'aller chercher le lieutenant des pompiers, qui était Louis Delcaire. Donc, le docteur Pipet demande à Madame Bernard d'aller appeler mon père et de lui dire qu'il se rend en mairie, qu'il fallait qu'il vienne montrer son matériel d'incendie. Donc, mon père, bien sûr, prend ses chaussures, tout s'habille pour aller en mairie. Ma mère, c'était toujours pareil, il ne voulait pas le laisser partir. Elle dit, mais ils vont t'arrêter, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et n'y va pas. Mon père a dit, non, je ne veux surtout pas qu'il vienne à la maison. Il ne disait pas pourquoi, mais il ne voulait pas que les Allemands viennent à la maison, car s'ils avaient fouillé, dans notre pigeonnier, là-haut, au troisième, il y avait un arsenal d'armes et d'explosifs considérable, donc qui était caché là-haut. Alors, il ne voulait surtout pas que les Allemands mettent le nez dans la maison. Donc, il s'est rendu en mairie. Et c'est en passant devant la poste, il a aperçu un monsieur qui était assis sur les escaliers, qui avait une capote sur une couverture, ou une capote sur les épaules, et puis qui était tout bandé, enfin les bandes qui l'entouraient la tête étaient ensanglantées. Et puis, bon, il a regardé la personne, et la personne l'a regardé aussi, et il a reconnu Jean-Pierre, qui lui a cligné des yeux. Et mon père a pris ça presque comme un adieu, parce qu'il se connaissait très bien, et Jean-Pierre était venu 3 fois à la maison chez nous, ça je m'en souviens, et ma mère avait fait des pommes de terre, une omelette aux pommes de terre, et cuite au lard. Et il avait dit, jamais j'avais mangé une aussi bonne omelette aux pommes de terre. Vous la faites très bien, madame. Je sais que moi, j'avais mangé ma soupe. Il m'a dit, t'es un grand garçon, tu manges bien ta soupe. Et je me rappelle de cette personne-là, que je verrai un peu plus tard, je vous parlerai un peu plus tard. Donc, mon père a compris que c'était très grave pour cette personne, et il pensait qu'il ne la reverrait jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Mon père arrivait donc en mairie, donc l'Allemand, le chef de la Gestapo, Gessler, lui dit, voilà, monsieur, il faut que vous montriez votre matériel d'incendie. Il a dit, bon, je vais vous le montrer. Il dit, mais je vais voir s'il est en état de fonctionner. Au cas où Besse brûlerait. Mon père s'est toujours posé une question, pourquoi veut-il voir matériel d'incendie si toutefois ils ont envie de mettre le feu au pays? Il s'est toujours posé cette question-là. Donc il lui a montré le matériel d'incendie, il a même mis la motopompe en route, montré les longueurs de tuyaux qu'il y avait, tout. Il y avait une pompe à bras aussi. Enfin, bon, bref. Quand il a eu visité le matériel d'incendie, l'officier allemand lui demande de remonter en mairie. Il lui dit, vous irez avec quelques sapeurs chercher le corps d'un terroriste qui a été abattu ce matin. Et il se tourne vers le père Pipet en disant à quel endroit. Alors père Pipet lui dit vers la station biologique. Et vous irez chercher vers les 17h. Donc mon père, bien sûr, il a fallu qu'il prévienne quelques pompiers. Donc il y avait le père Chauvet qui a été retenu, il y avait Paul Roux, qui avait le bar de la halle juste à côté. Il y avait Paul Mercier, je crois. Je ne me souviens plus. Enfin, ils étaient 4 ou 5. Donc, mon père était chargé d'aller chercher le corps. Et puis, il a appris très vite que c'était le gendarme Lavergne qui avait été abattu, très tôt le matin. Et donc, qu'il fallait aller rechercher le corps et le monter à l'hospice. Et puis, la journée s'est passée. Et puis, sur la soirée, donc, vers les 17h, peut-être 17h30, je ne sais pas, je suis ressorti un peu, prendre un peu l'air. J'étais resté fermé dans la maison toute la journée. Tout était calme, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus âme qui vive dans Besse. Je suis sorti devant la porte et j'étais jusque devant la terrasse du coiffeur, boudé. Et puis là, j'ai mon camarade Guérin, là, qu'on appelait Menou, qui est venu me rejoindre. Voilà, on a parlé un peu de la journée, comment ça s'était passé. Et puis d'un seul coup, voilà, une traction qui arrive par la rue Mercière. Et c'était une des tractions que j'avais vues le matin. Et moi, je sais pas, instinctivement, je dis, oula, c'est les Allemands qui reviennent. Alors, mon camarade était prêt à se sauver. Je dis, non, faut surtout pas courir. Parce que quand les Allemands te voient courir, c'est dangereux. Donc, on n'a pas bougé. La traction s'est arrêtée au coin de l'Economat, puisque c'était l'Economat, là, à cette époque, qui était tenu par M. Chauchat. Et puis, un officier qui était devant, qui descend, et puis qui ouvre la porte de derrière. Et puis qui ouvre la porte derrière en regardant du côté de d'autres maisons. on ne sait pas pourquoi. Bon. Et il a posé une question à une personne qui était derrière, mais qui était, et que j'ai aperçu, et que mon camarade aussi a vu, qui avait la tête toute bandée, et on voyait même les taches de sang à travers les bandes, tellement on était prêt. Et il a posé une question à cette personne, la personne a répondu d'un signe de tête, comme ça, et l'Allemand, l'officier allemand, furieux, a refermé, a claqué la porte d'un coup, et l'attraction est partie. Et voilà comment la soirée s'est terminée. À la sortie de cette journée, il y a eu quand même 22 arrestations, 22 personnes qui seront déportées, et dont un qui a été un résistant qui a été abattu, qui était le gendarme Lavergne. Voilà la journée de la rafle du 3 avril, comment je l'ai vécue.